Polar sur Loire, le rendez-vous des auteurs de Polar en Touraine. Le suspense dure ce samedi jusqu'à 19h, salle Okegem à Tours. Et sur Radioactive et RFL 101.
Radioactive, RFL 101 et Radio Béton. On est de retour sur le plateau de Polar sur Loire, le premier salon tourangeau dédié au polar en littérature, avec Anne des Poches sous les yeux de Radio Béton et Abdel d'RFL 101. On vous accueille pour discuter avec les auteurs du salon et on a le plaisir d'accueillir Adrian Matthews. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne.
Merci beaucoup.
Vous
Merci
êtes l'invité
pour
d'honneur.
Oui, c'est ça, oui, oui.
Alors, qu'est-ce que ça vous a fait d'être invité d'honneur de ce salon?
J'allais dire que c'est un honneur d'être l'invité d'honneur, mais je pense que c'est un pléonasme, non? Non, ça m'a fait très plaisir et je félicite Claudine, Nicole et Denis, les trois créateurs de ce salon sur leur travail, parce que je vois que c'est vachement bien ficelé et organisé. Et
donc, alors, vous êtes anglais, on l'entend à votre accent,
oui.
Mais vous vivez en France depuis plusieurs années.
Je suis en France, Je suis venu en Touraine pour la première fois il y a 42 ans et j'ai un lien très fort avec la Touraine depuis. Mais je suis en France de manière permanente depuis 35-36 ans, je crois. Et en Touraine, j'habite maintenant. Avant, j'étais à cheval entre Paris et la Touraine. Aujourd'hui, j'habite
uniquement
ici,
en Touraine,
ici, dans le Lochois. Oui.
Un bon choix.
Oui.
Vous êtes professeur à l'université. Je ne sais pas si vous l'êtes toujours.
Non, j'étais professeur à l'Université de Londres parce que l'Université de Londres a un satellite à Paris. Et pendant une vingtaine d'années, j'étais prof là. Maintenant, je me consacre uniquement à mon écriture.
Et vous étiez spécialiste de littérature anglaise.
C'est ça.
Du 19e.
Oui. 19e et 20e. Oui.
Et 20e. Alors, en France, en tout cas, il y a deux romans de vous qui ont été traduits et édités et publiés. Le chapeau de Victor Noir et le tableau de l'apothicaire.
Oui.
Vous en avez écrit plus que deux.
Oui, oui, oui. J'ai écrit plusieurs livres qui sont traduits dans une dizaine de langues. Mais il n'y a que deux qui sont traduits en français.
C'est étonnant.
Mais ça, c'est les deals qui se passent dans les salons de livres, les grands salons à Francfort, par exemple. Et il y a beaucoup de marchandage. Et il y a des livres qui sont acceptés et d'autres pas. C'est très aléatoire, je crois. Mon livre qui a eu le plus de succès dans les pays anglo-saxons et qui a gagné un prix en Angleterre n'a jamais été traduit en français, par exemple.
Oui. C'est fou.
On ne peut pas savoir pourquoi, parce que ça se passe en coulisses.
Alors, peut-être que les goûts du public français et le goût du public anglo-saxon est différent.
C'est possible, mais c'est aussi un marché qui est saturé. Il y a des milliers de livres qui sortent chaque année et les éditeurs doivent faire un choix. Et le choix n'est pas toujours ce qu'on aimerait
bien sûr.
Tant qu'auteur.
Alors, avant de parler de votre actualité, un petit mot sur les deux livres qui existent et qu'on peut trouver ici. Le chapeau de Victor Noir, on en parlait un peu en préparant cette émission, sorti chez De Noël en 2009. Donc, c'est le plus récent, en tout cas pour la France. Donc, il s'agit d'un personnage qui est enterré au Père Lachaise.
Exact.
C'est le point de départ de votre intrigue. Donc, c'est un polar.
J'hésite toujours avec ce mot polar parce que pour moi, un polar, c'est un policier. Le personnage principal, c'est un détective, n'est-ce pas? Mais
oui.
Je n'ai jamais écrit un polar si c'est ça, un polar. J'ai écrit les thrillers avec une enquête, mais l'enquêteur n'a jamais été un policier dans mes livres. Donc, dans ce livre, oui, il s'agit de Victor Noir. C'était un journaliste français qui était assassiné à l'âge de 23-24 ans par le prince Louis Bonaparte. Fin 19e siècle, parce que c'était une histoire. Il était républicain, le journaliste, mais il était assassiné principalement parce qu'il a eu une affaire avec la femme du prince Louis Bonaparte.
Une histoire d'adultère.
C'est une histoire d'adultère. Et c'était, à l'époque, c'était une cause célèbre. et le gisant dans le cimetière de Père Lachaise qui représente Victor Noir tel qu'il était trouvé par terre avec une balle dans la poitrine, son chapeau haut de forme à côté de son corps. C'est un gisant très réaliste en bronze. Et puis, bizarrement, la braguette ouverte est apparemment en état d'érection, quoi. Et on voit aujourd'hui que certaines parties de son corps ont été frottées par les gens. Et c'est un lieu de culte, presque. Ce qui se passe à Paris, c'est que très souvent, les femmes qui cherchent un résultat dans une histoire d'amour viennent voir Victor Noir
pour parle à son esprit pour une recherche de fécondité.
Well, voilà, c'est ça. Et on met les fleurs dans son chapeau haut de forme ou les petits mots. Dans mon histoire, le personnage, enfin, c'est pas le personnage principal, mais il y a un personnage brésilien, c'est un sans-papier brésilien qui vient récupérer les petits messages qui sont dans le chapeau haut de forme. Et c'est une sorte d'entremetteur. Il essaie de mettre les femmes en contact avec les hommes dont elles rêvent. Et ça se passe très bien. Il y a plusieurs couples, plusieurs mariages suite à ses interventions. Mais un jour, il lit une lettre. Ça a l'air d'être une lettre d'amour, mais ce n'est pas du tout une lettre d'amour, c'est une lettre de haine. C'est une femme qui cherche à tout prix à tuer quelqu'un. Et il fait l'erreur de mettre l'assassin en contact avec son victime potentielle. Ça, c'est le point de départ de ce livre.
Ça donne bien envie, en tout cas, d'aller le lire.
Donc, à Paris, j'ai vécu longtemps à côté de Père Lachaise, donc...
Ça vous a
inspiré.
C'est un endroit
que je connais bien, oui. C'est le plus grand espace vert à Paris, en fait.
C'est vrai.
C'est peut-être pas le plus gay, mais...
Bah, de ce que vous nous en dites, c'est quand même plutôt amusant. Enfin, c'est pas une histoire très connue, je pense, du Père Lachaise. Enfin, moi, je la connaissais pas, en tout cas.
Mm. Non, le personnage de Victor Noir, je le connaissais pas non plus.
Et c'est plutôt croustillant, en tout cas, comme, ouais. Comme anecdote.
Oui, je pense que c'est... En effet, c'est pas très connu, même à Paris, même parmi les Parisiens. Donc, parfois, je pose la question à mes amis parisiens et je pense qu'il y a une personne sur 5 ou 6 qui est au courant. C'est plutôt méconnu.
D'accord.
Alors, le précédent, en tout cas publié en France en 2006 chez De Noël, c'était Le tableau de l'apothicaire.
Voilà.
Il se passait en France aussi ?
Non, ça se passe à Amsterdam de nos jours. Enfin, il y a trois niveaux à cette histoire. Il y a une histoire contemporaine, une histoire qui se passe dans la Deuxième Guerre mondiale et une histoire qui se passe dans le 18e siècle aussi. Il y a trois histoires entremêlées qui concernent la famille de la même personne. En fait. Le titre de ce livre en anglais, c'est The House, The Apothecary's House, la maison de l'apothicaire. Mais c'est l'éditeur en français qui m'a dit, dans ce livre, tu parles d'un tableau. Et c'est pour moi le centre de l'intrigue, c'est ce tableau. Et j'aimerais voir ce tableau en couverture du livre. Et j'ai dit, mais c'est pas du tout possible parce que ce tableau n'existe pas. C'est un tableau que j'ai inventé. Et il a dit, oui, mais le descriptif du tableau est dans le livre. Alors qu'est-ce que tu dis? Je vais trouver un peintre pour faire le tableau. Et c'est exactement ce qu'il a fait et c'est ce qu'on voit sur la. En couverture de la version brochée du livre. Un tableau que, quand j'ai vu ce tableau pour la première fois, j'étais bouleversé parce que c'était exactement comme je l'avais imaginé.
Comme vous l'aviez peint dans votre tête, en tout
oui,
cas. Et comme
exact.
Vous l'avez peint par l'écriture.
Oui, oui. Et je n'avais pas du tout discuté avec le peintre, il a juste lu le descriptif. Alors, ce livre-là, c'est l'histoire d'une vieille dame qui habite à Amsterdam, qui est dans une exposition, elle voit un petit tableau qui n'a pas de grande valeur, à part son valeur sentimentale, qui appartenait à sa famille avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était peint par un de ses ancêtres. Elle est moitié juive, moitié hollandaise, et c'était son ancêtre hollandais qui était apothicaire qui a peint ce tableau. Donc pour elle, c'est un tableau qui avait une valeur sentimentale.
Un tableau de
et elle cherche à le récupérer. Avec l'aide d'une jeune historienne de Beaux-Arts qui se rend compte que cette vieille dame ne peut pas faire toute la partie administrative toute seule parce qu'elle est un peu... Elle n'est pas démente, mais elle est elle commence à perdre la boule, comme on dit en français.
Elle perd la boule.
Voilà. Mon point de départ pour ce livre, c'était exactement ça. Pendant longtemps, j'avais envie d'écrire une histoire sur une vieille dame qui radote. Mm-hmm. Et de temps en temps, elle radote, de temps en temps, elle est lucide. Mais quand elle radote, elle dit la vérité. Et quand elle est lucide, elle ment. Elle cache la vérité, si vous voulez. Donc, c'était un tableau. Le tableau dans l'histoire était confisqué donc par les Allemands dans la guerre. Et la jeune historienne de Beaux-Arts se rend compte que c'était un tableau recherché par les plus hauts dignitaires de nazis. Et que Hitler le voulait pour son le musée qui n'était jamais construit, mais le musée de Beaux-Arts hitlérien. Et elle se demande pourquoi, parce que c'est le peintre n'avait, c'était un petit apothicaire à l'époque, il n'avait pas de renommée, le tableau lui-même n'est pas super intéressant, donc il y a, ça cache quelque chose. Et évidemment, je ne vais pas vous dire ce que ça cache.
Ah. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller courir
prendre
à
le livre
sur Loire en plein centre de Tours pour en savoir davantage, en fait.
Le tableau de l'apothicaire, donc, de Adrian Matthews, et le chapeau de Victor Noir dont vous parliez juste avant. Quelle est votre actualité, Adrian Matthews? Est-ce que vous disiez tout à l'heure que vous vous consacriez entièrement à l'écriture? Alors, peut-être que vous n'êtes publié encore qu'en Angleterre ces jours-ci.
Je suis en train d'écrire le premier volume d'une trilogie. C'est une sorte de trilogie dystopienne, une histoire qui se passe dans l'avenir proche, dans 40 ou 50 ans à Berlin, où la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont entremêlées de manière très serrée, quoi, et qu'on passe d'une dimension à l'autre. Parfois sans savoir si ce qu'on voit est vrai ou pas.
Il n'y a plus de frontières entre les deux.
Voilà, donc pour moi c'est un défi d'écrire un livre comme ça. J'étais inspiré par, il y a plusieurs films qui traitent ce sujet qui m'ont beaucoup inspiré aussi, et mon idée, là je travaille sur le premier volume, mon idée c'est de ne pas garder le même personnage principal, mais je vais prendre un personnage secondaire du premier volume pour devenir le personnage principal du deuxième.
D'accord.
Mais pour l'instant, je me consacre
à
écrire le premier.
Adrian Matthews, vous écrivez en anglais ou en français?
J'écris en anglais. J'ai commencé dernièrement à traduire les petites nouvelles que j'avais écrites en anglais en français. Je les traduis directement moi-même, et je demande à ma femme qui est française ou à d'autres personnes de relire pour enlever les coquilles ou les...
Ouais. En l'occurrence, les livres dont on a parlé tout à l'heure qui sont sortis en France, c'est pas vous qui les avez traduits, c'est un traducteur?
C'est des traductrices professionnelles, ouais. Oui. Oui,
d'accord.
C'est ça, oui. J'avais demandé un doigt de regard pour être sûr que... Pas pour vérifier la qualité du français, mais pour être sûr que certaines...
Que le style correspondait
oui, que voilà. L'atmosphère était bien celle que vous vouliez rendre.
Oui, oui. Donc, et on a respecté ce contrat et j'ai modifié certaines choses, mais en gros, j'étais content de la qualité de la traduction.
La trilogie que vous êtes en train de démarrer, elle a un nom?
Oui.
C'est trop tôt pour le dire,
oui,
peut-être.
D'accord. Je préfère
alors,
pas le dire.
Alors, simplement, est-ce que, pour le coup, celle-ci, on pourra la trouver en France?
Pardon?
Est-ce qu'elle sera publiée en France?
Ça, je ne sais pas du
tout. On ne sait pas encore.
Moi, je travaille d'abord avec mon agent littéraire à Londres, et j'ai un agent littéraire à Paris aussi. Et tout ce qui est business, tout ce qui est recherche d'éditeurs, de recherche de traducteurs,
c'est
eux qui s'en occupent, oui. Ils sont payés pour ça. Le job,
bien
c'est
sûr.
De faire tout ce qui est, toute cette partie business de la publication d'un livre.
Alors Anne a une dernière question à vous poser.
Oui, il est de tradition à Radio Béton, lorsque l'on croise des artistes, auteurs, musiciens, de leur poser la question s'il ne restait qu'un livre, s'il n'en restait qu'un.
Sur la planète.
Qu'est-ce que vous emporteriez avec vous?
Je pense que c'est peut-être un choix un peu loufoque, mais je garderai Sous le volcan de Malcolm Lowry, un écrivain britannique, l'histoire qui se passe au Mexique, l'histoire qui a été filmée d'ailleurs, mais pour moi le livre c'est un livre qu'il a passé une vingtaine d'années à écrire, et c'est un chef d'œuvre avec chaque détail est parfait, chaque détail est parlant, et c'est un livre que je pourrais relire 10 fois, 15 fois, 20 fois sans jamais m'ennuyer. Et c'est peut-être pour cela que je choisirai ce livre.
Merci.
Merci beaucoup Adrian Matthews, à Polar-sur-Loire toute la journée jusqu'à 19h si vous souhaitez le rencontrer, découvrir son univers. Le salon est vraiment fait pour ça, pour discuter, il est à échelle humaine. Donc n'hésitez pas à venir, salle Oke Game jusqu'à 19h, ça je l'ai dit, salle Oke Game, c'est place du Château-Neuf à Tours. Et quant à nous, on se retrouve juste après une petite pause musicale avec un autre auteur, puisque l'idée c'est de recevoir un grand nombre d'auteurs pour vous présenter leur travail. À tout à l'heure.